Cours de philosophie de la matière par le père Philippe Arimon, 27 octobre 1989, deuxième cours.
Peut-on dire qu'en supprimant la sphère première, on passe d'une notion univoque du lieu à une notion analogique du lieu? Je laisse l'interrogation. On le verra au terme. On n'a pas encore dit. Qu'est-ce qu'on pouvait garder du lieu? C'est une question, oui.
Vous disiez que le philosophe peut affirmer que tout dans le monde public est corruptible. Est-ce que la matière tournante n'échappe pas à cette corruptibilité, puisqu'elle demeure au-delà de tous les changements de
la matière prima n'existe pas toute seule. Elle n'existe que dans les réalités mues.
Est-ce que dans ces réalités mues, elle n'est pas quelque chose qui échappe à la corruptibilité?
Non, la matière prima, on la pose pour exprimer, juste pour expliquer justement, qu'au niveau des éléments, il y a une transformation naturelle, radicale. Oui. Et donc, elle n'échappe pas, elle est au contraire la condition pour que tout soit en mouvement. Je dirais que la matière prima va plutôt dans le sens que tout est mu.
Mais est-ce qu'elle-même est mue?
Elle-même est la condition. Elle est réelle. Elle est quelque chose, pure puissance. Mais elle est ce qui permet au mouvement d'être radical, que tout soit mu. Et grâce à la matière prima, tout est mu. Ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote, c'est là où on voit cette chose très étonnante, qu'il a saisi certaines choses qui sont, je crois, réelles et qui permet de faire tomber des vieux meubles, des choses qu'il tient d'une tradition religieuse, et ce qu'il a vu reste vrai. La matière prima permet de montrer que tout l'univers physique est mu, corruptible.
Est-ce qu'il n'y a pas dans ce sens une finalité qu'on peut trouver dans l'univers physique?
Non. Alors c'est ce qu'on va chercher. C'est pas commode. C'est ce qu'on va chercher. Oui. C'est-à-dire qu'on pose la matière prima à partir même du mouvement des réalités mues. Et qu'on voit que ces réalités mues vont jusqu'à la transformation des éléments. Donc elle est radicale.
C'est à partir des effets qu'on remonte
à partir, pas des effets, à partir du mouvement même. Vous voyez, c'est le mouvement qui me permet d'inférer la matière prima. Vous voyez, c'est pas une démonstration a posteriori, puisque c'est une analyse qui pose l'aspect radical du principe matériel, étant donné le caractère radical du mouvement physique. La démonstration a posteriori pose une réalité, et non pas un principe. Dès que vous êtes en face à la découverte d'un principe ou du mode particulier d'un principe, c'est toujours une induction. À partir d'une analyse. C'est un principe. La matière prima n'est pas une res, une réalité. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Oui, parce que l'univers physique est pour la vie. Mais c'est une maison parfaite. C'est la perfection de l'enveloppement. Bon.
Oui.
c'est le plus localisé. C'est-à-dire c'est celui qui prend conscience de cette localisation. Oui, oui, le plus localisé. Oui, sûrement. Le lieu est de l'ordre physique. Oui, c'est pour ça que j'ai mis les trois dimensions pour le corps. Je crois que ça c'est les trois dimensions des existences d'Aristote. Et je les constate. Oui. Tandis que le lieu est physique. Le haut et le bas. La deux dimensions. Et les deux dimensions sont données par le point de vue des éléments. Le feu et la terre. La droite et la gauche, c'est déjà autre chose, c'est le vivant. Oui, il le dit dans les parties. C'est le vivant. Au début du livre, sur le lieu. Oui. Oui, à propos des propriétés, oui. Oui, mais vous voyez, la droite et la gauche est vraie pour le vivant. Au-delà de la localisation, au-delà du lieu. Quelque chose de plus parfait, plus complexe. Et le lieu comme tel est physique. Vous voyez ? Et donc n'empêche pas du tout le point de vue du vivant. Le vivant étant quelque chose de plus parfait. Et plus complexe par le fait même. Puisque plus vous êtes plus vous avez une réalité physique parfaite, plus elle est complexe. Le lieu, c'est vraiment dans l'ordre de l'être nu. C'est l'être nu. Il est localisé. Être nu. Et en tant qu'être nu, quelle est sa finalité ? Qui est la limite ? Immobile. Vu par le corps enveloppant.
La complexité est une perfection de ce qui est matériel, mais la simplicité est une perfection de ce qui est en tant qu'être.
Simplicité se comprend au niveau du principe d'être, au niveau de l'être. Oui. Donc au niveau de l'esprit, si vous voulez. Tandis que la complexité est au niveau. C'est pas une perfection, hein. C'est la condition sine qua non pour que la perfection soit atteinte. C'est pas une perfection, la complexité. Mais autrement, vous auriez une contradiction entre le point de vue de l'être et le devenir. Vous voyez ? Or, il n'y a pas de contradiction, mais il y a une condition sine qua non. Pour être parfait dans le monde physique, la complexité est nécessaire. Pour être parfait dans le monde biologique, la complexité est nécessaire. Tandis que pour être parfait dans le monde de l'esprit, la complexité n'est pas nécessaire. C'est le propre de l'esprit. Je mettrais plus l'esprit que l'être, vous voyez ? Continuons cette petite réflexion qui n'est pas commode. Je suis tout à fait d'accord, mais je crois qu'on doit la faire. On doit aller jusqu'au bout si on veut faire une philosophie de la matière. Aujourd'hui, nous devons aller jusque-là. Voir tout ce que dit Aristote dans les physiques, voir dans quelle mesure nous pouvons le garder ou pas le garder. Et là, suivre rigoureusement ce qu'il dit au point de vue du lieu. Et pour ça, toujours bien distinguer le pose et le tiesti. Ça me semble très important. Puisque les conditions sine qua non sont du côté du pose. Forcément. C'est pas du côté du tiesti. Le tiesti est simple. Il n'a pas besoin de conditions sine qua non. Les conditions sine qua non, c'est toujours du côté de la matière. Et de la complexité de la matière pour que celle-ci puisse exister. Bon, alors, nous avons supprimé cet édifice magnifique de la première sphère qui est commandé le point de vue de la perfection dans le mouvement et qui par le fait même permettait plus facilement de comprendre ce qui permet au corps mobile d'être en repos, donc de dépasser le mouvement et d'être finalisé par la première sphère, d'être localisé par la première sphère. Si on supprime cela, le monde physique, par le fait même, reste un monde corruptible. Là, c'était la question que vous posez. Le philosophe peut-il dire que toute réalité physique est corruptible? Je crois que le philosophe peut affirmer que toute réalité physique est corruptible. Puisque le propre du monde physique, c'est d'être mu entre les deux contraires. Et donc, corruptible. Tout le monde physique est corruptible. Même si, de fait, je n'expérimente pas nécessairement tout le monde physique. Et j'avoue de ne pas l'expérimenter entièrement. Je l'expérimente une toute petite partie. Mais il y a une unité dans le monde physique. C'est la matière qui fait cette unité et la lumière. Les deux extrêmes. Il faudrait se poser la question, est-ce que la lumière peut remplacer la sphère première? Est-ce que la lumière pourrait me rendre raison du lieu dans le monde physique? On serait localisé par la matière. On peut pas. La lumière est une propriété du feu. Donc, on ne peut pas localiser. Et le feu est un élément. On ne peut pas finaliser. C'est trop simple. Et la lumière aussi. Donc, la lumière peut faire l'unité, mais ne pas localiser. Mais l'unité du monde physique n'est pas nécessairement celui qui enveloppe. Parce que nous sommes en face d'un monde imparfait. Donc l'unité du monde physique n'est pas nécessairement une réalité plus parfaite. Donc, c'est important de bien montrer la différence entre l'unité et le point de vue du lieu. Alors, j'essaie de comprendre ce que c'est que le lieu. Est-ce que l'ordre qui existe en monde physique, la question, y existe-t-il un ordre dans le monde physique? Je dis oui. Il existe un ordre dans le monde physique. Un ordre imparfait. Un ordre qui donc n'a pas... Vous voyez, c'est par là que je vais essayer de l'atteindre. Un ordre qui ne possède pas en lui-même sa propre mesure. Tout ordre. Nous sommes en face d'une notion, d'une question très importante. L'ordre implique diversité et unité dans la diversité. C'est pour ça que tout ordre implique un principe propre qui est mesure. Si je me place du côté du monde physique pur, il y a un ordre. Il y a des réalités plus, dans le monde physique, il y a des réalités plus ou moins parfaites. Mais du fait même qu'il y a les quatre éléments. Les quatre éléments impliquent un ordre. Éléments impliquent un ordre. Un ordre qui est tout le temps en mouvement, mais qui est quand même un ordre. cet ordre. Mais c'est curieux, à la place de la sphère suprême, on revient aux éléments. Cet ordre est imparfait, puisqu'il est toujours en mouvement. Donc, il n'implique pas, il implique simplement un élément plus parfait. Le feu est l'élément le plus parfait. Mais il n'implique pas une mesure immanente. Cet ordre physique est ordonné au vivant. Parce que dans le devenir pur, il n'y a pas de premier au sens absolu. Et donc, au sens absolu, il n'y a pas de fin. Il y a une limite. Alors, c'est là où Peras, la limite, reste juste, mais n'est pas une fin. Peut-être pour Aristote, la confusion était là. Confusion parce que il voit la première sphère. La première sphère finalise par le mouvement circulaire. Elle est parfaite, donc elle peut finaliser. Seul ce qui est parfait finalise. On a une vision du monde physique beaucoup plus imparfaite. Parce qu'elle est toujours en mouvement. Donc il n'y a pas de premier, il faut dépasser le physique pour trouver quelque chose qui mesure le physique. Et qui en mesurant le physique, le localise d'une certaine manière. C'est le vivant. Le vivant, le corps vivant. Est encore plus parfait, le corps biologique est encore plus parfait, qui par le fait même donne un sens dernier au monde physique. Au plan philosophique, je peux dire que le monde physique est pour le monde des vivants. C'est donc seul notre petite planète implique le vivant. On peut dire que tout le monde physique est pour cette petite planète. Mais on est localisé par ça, hein. C'est une limite. C'est un lieu violent. C'est violent pour nous, ça. C'est très violent. Oui, parce qu'il ne respecte pas le vivant. Et c'est vrai, il y a des choses comme ça qui font que des couvées de canards ratent. Donc ils ne respectent pas les gens. Et les couvées d'aigles ratent à cause de ça. C'est très curieux. Ça perturbe notre monde. Ça le perturbe de telle manière que respecte pas le vivant. C'est la technique qui perturbe le monde des vivants, qui le violente. Alors, le monde physique ordonné au monde du vivant, et le vivant ordonné à l'homme. Ça, je crois que nous devons dire ça. Alors, pour l'homme, il y a un lieu. Il n'y a de lieu que pour l'homme, au sens strict. Pour le reste, il y a un ordre. Un ordre qui implique des limites, qui implique une certaine hiérarchie dans le mouvement. Et qui est, comprend, et qui est orienté vers quelque chose qui n'est plus le monde physique. Alors, je reviens à cela. Je dis, qu'est-ce que c'est pour l'homme le lieu ? Et c'est très curieux, hein. Je ne regarde plus le lieu uniquement dans le monde physique. Et je comprends que l'homme est localisé à cause de son corps physique. Il est localisé par son monde physique, par son corps physique. Donc par le physique qui est en lui. Condition sine qua non. Je suis localisé par le physique. Qu'est-ce que ça veut dire localisé ? Ça veut dire je suis une partie dans un tout. Et ce tout a une influence sur moi. Je ne suis pas totalement autonome par rapport à ce tout. Ce qui est vrai de l'homme est vrai de tous les autres animaux. Oui. Et est vrai de toutes les parties de l'univers. Donc c'est bien l'homme et le corps de l'homme qui permet de localiser tout l'univers. Et de maintenir cette notion de lieu au niveau physique. Et de montrer que le lieu est plus complexe pour le vivant et pour l'homme que pour le monde purement physique. Pour le monde purement physique, deux dimensions. Le haut et le bas. Et c'est l'homme qui dit ça. Oui. C'est très curieux ça. Ce n'est plus purement objectif. Autrement dit, il y a quelque chose d'analogue au lieu et au temps. Ce qu'Aristote n'a pas vu à cause de la première sphère. Le temps, nous allons le voir. Le temps n'est parfaitement temps que par l'homme. Dans ce sens, le temps est humain. Je le projette ensuite sur l'univers physique. Bien, le lieu est humain. Condition sine qua non, le corps. Le lieu est complexe par le vivant. Mais il n'existe vraiment que grâce au corps humain. Vous réfléchissez là-dessus. Du monde physique, elle n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de mesure dans le monde physique. Il y a un ordre. Et la mesure, c'est le vivant. Et la mesure du vivant, c'est vous. Vous avez cette dignité d'être la mesure du... Vous voyez, pour la dignité de la personne humaine, c'est très intéressant. Parce qu'au fond, en définitive, c'est la dignité de la personne humaine. Alors, c'est intéressant, vous voyez, face à ce que dit Freud. Vous savez bien, Freud dit la science a enlevé à l'homme sa dignité, puisque la terre n'est plus au centre de l'univers, puisque l'homme provient de l'animal, et puisque l'homme, dans son psychisme, c'est le complexe d'Oedipe. Alors, face à ce que dit Freud, nous réhabilitons l'homme de cette manière-là. C'est très curieux. Je crois que c'est vrai. Oui.
Quand vous parlez d'un corps plus parfait que de ma science du monde physique,
oui.
Qu'est-ce que vous entendez par parfait ?
Est-ce parfait, que vous parce que c'est le point de finalité. Vous êtes parfait quand vous atteignez votre fin. Tant que vous n'avez pas atteint votre fin, vous n'êtes pas parfait. Vous êtes un religieux parfait quand vous atteignez la finalité de la vie religieuse, c'est-à-dire la contemplation. Tant que vous n'atteignez pas la contemplation, vous n'êtes pas le jeu parfait. Hein? Ça, c'est la perfection. Et on est parfait quand on atteint sa fin. Or, il n'y a pas c'est le domaine du devenir pur. Et dans le devenir pur, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Et ça montre les limites de la philosophie de la matière. Cherchez bien, ne trouvez pas de corps plus parfait que le corps de l'homme. Il me semble qu'on doit dire ça, moi je ne vois pas de possibilité d'autre chose. Mais je vous livre, hein, je cherche, parce que dans ce domaine-là, on n'a rien fait au point de vue philosophie réaliste. Ou on est à la remorque de la science. Alors à ce moment-là, ce n'est plus la recherche philosophique. Et je comprends très bien qu'on abdique tellement facilement au point de vue de la philosophie de la matière. C'est tellement ténu. Vous voyez, dans le domaine de la matière, les principes et les conditions sine qua non sont proches. Je sauve ça grâce à l'homme. C'est pour ça que je dis que la philosophie de la matière ne peut se faire qu'en fonction de l'homme. La science se fait en dehors de l'homme. C'est le danger du reste. Parce qu'elle risque de mettre l'homme dans une voie de déviation. Et le philosophe est là pour rappeler à l'homme, faites attention. Parce que c'est bien quand on est dans une déviation. On risque de perdre un temps énorme. Hein. Et quelquefois de se perdre complètement. Alors qu'est-ce qu'on n'a plus qu'à faire? Revenir, comme le petit poussé, sur la voie au moment des déviés. Et alors on revient sur la grande route, mais on n'est pas avancé, barrage. On est peut-être obligé de revenir sur la voie, hein, voir le moment où on a quitté la philosophie. Peut-être là qu'il y a au moins un philosophe qui le dise, un groupe de philosophes qui le disent, un groupe d'hommes pensants qui le disent. Dans le monde d'aujourd'hui, ce qui nous est demandé en premier lieu au plan philosophique, c'est la lucidité par rapport à la science. Parce que je ne peux pas faire grand chose par rapport à la science. Je laisse la science partir dans sa voie de déviation par rapport à l'homme. Parce que la mesure de la science, c'est pas du tout l'homme. C'est quoi la mesure de la science? Eh bien, en définitive, c'est les mathématiques. Et on sent bien que les mathématiques ne peuvent pas tout dire. Alors, on va en fraude. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses qui ne sont plus scientifiques. Et on n'ose pas dire qu'elles sont plus scientifiques. D'où cette sorte d'éclatement de la science aujourd'hui, surtout ça se voit au point de vue médical, vis-à-vis des choses qui ne sont plus la science reconnue, et qui sont descriptives, qui essaient de revenir à un art. Parce qu'en réalité, ça a toujours été la médecine est-elle un art ou une science? Les vrais médecins sont des artistes. Les faux médecins sont des savants. C'est dangereux de dire ça. C'est très dangereux de dire ça. Et c'est pourtant vrai. Et la biologie est-elle une science? Ou est-elle une excroissance des mathématiques? Est-ce que la vie peut s'étudier mathématiquement? Non. Or, en biologie, elle veut s'étudier mathématiquement. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, hein, c'est qu'on arrive, on touche des problèmes, on sent bien qu'il y a eu des déviations. Je crois qu'on doit les reconnaître au plan philosophique. Ça ne veut pas dire que la science n'a pas d'intérêt. Non, elle a un intérêt limité. Elle n'a pas de finalité. Donc elle a des limites perasses, la limite. Elle demande d'être localisée dans l'ensemble hiérarchique des sciences. Et les mathématiques demandent d'être localisées dans l'ensemble hiérarchique des sciences. Et les mathématiques doivent reconnaître que parce que le mathématicien est plus que les mathématiques, que la métaphysique doit localiser les mathématiques. Ça, c'est pas drôle pour le mathématicien. Et je crois qu'on arrive à ça aujourd'hui. Alors, je reviens sur la question du lieu, et peut-être qu'on comprendra mieux cette manière de comprendre que le lieu demande que l'homme localise. Alors, il localise objectivement, pas subjectivement. Parce que le monde physique existe. Il existe indépendamment de l'homme. Mais ce monde physique est un tout que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas localiser par rapport au monde physique. Je ne peux le localiser que par rapport à l'homme, qui est le corps le plus parfait. Qui a cette dignité. Oui.
Quel est le lieu de l'homme ?
C'est exactement comme la première sphère. Il est à lui-même son propre lieu. Si il comprend que c'est par sa finalité qu'il va se localiser.
Est-ce qu'on peut dire en théologie que pourtant le propre du pécheur originel, c'est qu'il n'a plus de lieu ?
Oui, il est chassé du paradis terrestre. Le paradis terrestre a arrêté sa petite sphère. Oui. Point de vue théologique, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a une telle nostalgie de retourner au paradis terrestre, d'avoir un lieu. On veut avoir un lieu. On a une peine énorme de considérer que l'homme est un pèlerin. Le fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Ça a peut-être un sens philosophique très fort. Comme fils de l'homme. Mais ce qui n'est pas interdit à Jésus de dire de temps en temps des paroles qui sont philosophiques. Ce n'est pas interdit. Des paroles qui ne peuvent se comprendre parfaitement au plan philosophique. Dont on peut comprendre tout le sens qu'au plan philosophique. Parce que c'est lui. Mais ça ne regarde pas directement notre salut, ça. N'a pas de lieu reposer sa tête. Ça ne veut pas dire que les hommes l'ont mal reçu. Non. Il est tout à fait à l'aise au désert. Parce que le désert montre qu'il n'y a pas de lieu. Quand on traverse un désert, on a le sens qu'il n'y a pas de lieu. Sauf les oasis. Les oasis, c'est l'homme qui le fait. C'est un errant. C'est extraordinaire, ça. Ça va très loin, ces choses-là, si on les veut les creuser. Alors, l'homme fait pour le petit de l'homme un lieu, un berceau. Et le premier lieu que j'ai eu, c'est dans le sein maternel. C'est le lieu de l'embryon. C'est le lieu du tout petit. Et l'homme veut enlever à l'homme ce lieu. Mais comme c'est criminel, on est d'une cruauté effrayante pour l'espèce humaine. Enlever à l'embryon son lieu propre. Ça, c'est le lieu naturel du vivant, pas physique. Et ce vivant n'a de lieu que par rapport à l'esprit. on va arracher l'embryon de son lieu comme un progrès, en ne comprenant pas que là il y a un crime lèse-majesté par rapport à l'homme, par rapport à la dignité de l'embryon. Faites ça pour les animaux si vous voulez, mais pas pour l'homme. Et même pour les animaux, c'est un crime par rapport à la vie. Violence par rapport à la vie. C'est très cru. Ça va très loin, ces choses-là. Dont on ne verra les conséquences que beaucoup plus tard. On ne les voit pas tout de suite, les conséquences. Parce qu'on n'a pas l'intuition de ce que c'est que le vivant. Le milieu, hein, le milieu, le lieu. Du vivant, dans sa petite espèce. Alors c'est très curieux. C'est qu'on arrive. On ne comprend parfaitement, puisqu'on n'a plus la première sphère. On revient donc aux éléments. Il y a l'analogue des éléments, c'est la conception humaine. C'est l'analogue. C'est le premier instant du vivant, quand il est conçu, dans sa petitesse. Et il a besoin d'un milieu. Alors on retrouve la notion du lieu. Pour les éléments, le haut et le bas. La notion du milieu pour la petitesse de l'embryon, qui a besoin d'un milieu, qui lui permet d'exister. S'il n'a pas ce milieu, il n'existe plus. C'est pour ça que je dis, faire des expériences au niveau de la fécondation, c'est violenter le vivant. Il a absolument besoin d'un milieu. Et vous l'arrachez à ce milieu pour essayer de voir si vous pouvez en inventer un autre. Alors là, on touche la question du lieu et du milieu vital. Et vous voyez que c'est quelque chose d'impératif. Condition sine qua non pour qu'il puisse exister. Alors évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'on arrivera à faire un milieu artificiel qui puisse remplacer le milieu vital. Je ne crois pas, puisque le milieu et le lieu, vous voyez, touchent la matéria prima, ce qu'on n'arrivera jamais à inventer. C'est beaucoup plus là que je vois la matéria prima et l'importance de la matéria prima. C'est quelque chose qui est irréductible à l'aspect artificiel. Qui montre qu'il y a un lieu naturel qui demeure. Et la matéria prima est le fondement de ce lieu naturel, et de ce milieu du vivant.
Est-ce qu'on peut parler de lieu comme une barrière analogique ?
Ah oui, c'est sûr. Madame Zou, il est humain.
Il y a quand même une expérience du lieu en tant que...
Ah, alors, je reviens à cette question, parce qu'elle a été posée tout à l'heure. Et je crois que c'était aussi très important. Dans la table des prédicaments, vous voyez, la table des 10 prédicaments, substance première, qui est au-delà, substance seconde. Mettez le lieu. N'est-ce pas ? Vous avez donc une expérience du lieu au niveau prédicament. C'est sûr. Je crois que ça, je ne peux pas dire le contraire. Qu'est-ce que c'est que cette expérience du lieu ? Non. L'expérience du lieu comme tel, c'est pas la qualité. L'expérience du berceau, souvenez-vous, hein, il fallait un grand berceau. l'excellence du berceau. Oui, on aime bien être secoué, vraiment le mouvement, le gosse, dès qu'on est, dès qu'il est secoué un tout petit peu, qu'on met un rythme dans le mouvement, il est heureux. Et il s'endort. Vous avez l'expérience d'un lieu. Les artistes ont très fort ce sens du lieu. Il y a des lieux dans lesquels on est bien et des lieux dans lesquels on n'est pas bien du tout. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette expérience du lieu? C'est une expérience de la cogitative. Je dépends du lieu. La dépendance à l'égard d'un lieu. Et cette dépendance à l'égard d'un lieu fait que certains lieux sont nocifs. Chez les poètes, chez les artistes, c'est très très net. Il y a des lieux qui ne conviennent pas. Chez les religieux aussi. Et les religieuses encore plus. Il y a des lieux qui sont agréables, on s'épanouit. Il y a des lieux. Il y a des orages tous les jours. Et des orages durs à passer. Et le lieu, la question du lieu, l'expérience du lieu. L'expérience du lieu et du situs. D'autres choses. Hein. L'expérience du temps. Ça, c'est très facile à comprendre. Mais il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Parce que ça, c'est donné dans les prédicaments. Et quand je dis tout bonnement, mais oui, le lieu s'étudie en philosophie de la nature. Est-ce qu'au fond, le lieu s'étudie en philosophie de la nature? Ou est-ce que le lieu doit s'étudier au point de vue de l'œuvre d'art? Au niveau du facere et de l'agere. Je pose la question. Puisque l'enquête que nous venons de faire a délogé le lieu du monde physique. Et a fait que ce lieu ne pouvait se comprendre qu'en fonction du corps le plus parfait que j'expérimente, quel corps humain. Et c'est lié au corps humain. Or, le corps humain, je ne le connais parfaitement que par le facere, par l'agere, comme corps humain. J'ai dit tout à l'heure, le corps humain, je le connais par l'usage. Puisqu'on a fait les trois dimensions, physique, biologique, humain. Le corps humain comme humain est l'organone, l'instrument de mon âme. Un instrument conjoint de mon âme. Et il est instrument. Or, est-ce que la question du lieu n'est pas liée à cette dimension humaine? Je peux en parler avant un jugement de sagesse. Ce que je peux parler, ce qu'on avait dit tout à l'heure, vous voyez, que le corps humain est le plus parfait de tous les corps, je peux le dire, en philosophe. Tu vois, avant le jugement de sagesse. Puisque l'âme humaine, j'en reparlerai dans un jugement de sagesse, de façon ultime, dernière. Je peux en parler avant. Les prédicaments, ça va. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la question posée. Les prédicaments me donnent les diverses dimensions de l'homme. Et je les étudie ensuite et je les analyse en philosophie. Puis-je analyser le lieu purement et simplement en philosophie de la matière? Je dis non. Je dois aller jusqu'au vivant pour essayer de comprendre. Et je dois peut-être aller jusqu'à l'éthique et à l'art pour le comprendre parfaitement. Je vous laisse devant ces questions. Réfléchissez-y.